Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strouche-Bonnard. Marie Dosé, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre aujourd'hui chez Les Contrariantes. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez déjà une très belle carrière derrière vous. Vous êtes familière de procès à dimension politique et avocate de nombreuses personnalités, mais aussi d'anonymes. Alors pourquoi vous inviter aujourd'hui ? Car cela fait un moment que nous observons, Peggy et moi, avec admiration, vos prises de position publiques. Le 14 février dernier, notamment, vous avez co-signé dans Le Monde, avec 5 de vos confrères, une tribune intitulée « Le tribunal médiatique a fini par contaminer l'ordre judiciaire ». Vous y expliquiez qu'en matière de violence sexuelle, à force de préférer le tribunal médiatique au prétoire, on mettait gravement en danger le principe fondamental de notre droit, qu'est la présomption d'innocence. Vous dénonciez aussi la complicité du parquet en la matière, qui ouvre désormais quasi systématiquement des enquêtes préliminaires, même quand les faits sont prescrits. Ce n'est pas le seul sujet où, pour reprendre le titre d'un portrait que Le Monde Magazine vous a consacré en juin 2020, vous faites l'avocate du diable. Vous œuvrez depuis 2018 au rapatriement des enfants et des femmes de Français partis faire le djihad en Irak et en Syrie et retenus au Kurdistan syrien. Vous avez aussi défendu l'un des 14 accusés du procès des attentats de janvier 2015 de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Pour toutes ces raisons, certains vous décrivent comme à contre-courant. Vous êtes une contrariante en quelque sorte. Cela me semble d'autant plus incongru qu'à mon humble avis, vous prenez le courant dans le bon sens, celui de la justice. Or, la justice n'est ni un plébiscite, ni la morale. Elle demande du temps, du recul, de la contradiction. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est représentée depuis des siècles par une déesse portant une balance pour peser le pour et le contre. Mais aujourd'hui, quand on dit balance, c'est plutôt pour balancer et pas pour peser. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Je laisse la parole à Peggy pour la première question.
Marie Dosé, dans le portrait du Monde que Laetitia a cité, on vous dit avocate des causes perdues. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dénomination ?
Non, je la trouve un peu stupide, cette dénomination. Je suis ni l'avocate du diable, ni l'avocate des causes perdues. D'abord, le titre initial de ce portrait, c'était l'insurgé du barreau. Mais comme, à mon avis, c'est moins porteur commercialement, on a décidé de changer. Et puis de faire un peu cette référence à Vergès, que je ne comprends pas très bien. Parce que quoi ? Ça veut dire que défendre des enfants qui sont en train de périr et de mourir dans des camps en Syrie, c'est défendre le diable ? Je piche pas très bien tout ça. Donc non, je me reconnais absolument pas ni dans le titre de ce portrait, ni dans ce portrait. Mais bon, j'ai plutôt ce sentiment que c'est un portrait qui parle plus de la profession que de moi, en fait.
Vous avez souvent dénoncé le populisme pénal. Qu'entendez-vous par là ?
Le populisme pénal, c'est quand on se sert du contentieux pénal à des fins politiques et politiciennes. Voilà. C'est-à-dire, c'est par exemple le phénomène un fait divers, une loi. C'est quand on retire de l'essence de la matière pénale tout ce qu'elle a de plus noble pour en faire une arme politique. Ça a été le summum de l'exercice du pouvoir par Nicolas Sarkozy, par exemple, hein, qui s'est vautré dans l'hystérie victimaire, qui a véritablement excité les foules, demandé plus de répression, réformé de façon outrancière le code pénal à chaque fois que l'émotion populaire se heurtait à un fait divers particulièrement choquant. Voilà, c'est ça le populisme pénal. C'est véritable. Vous savez, la matière pénale, elle est évidemment celle qui charrie le plus d'émotions. Et l'émotion, c'est parfois ce qu'il y a de plus dangereux. C'est même souvent ce qu'il y a de plus dangereux. Donc si le pouvoir politique ne freine pas cette émotion-là pour la transformer en raison ou pour prendre une belle distance avec elle, mais si vôtre pour mieux finalement jouer la carte du populisme, eh bien on sombre dans le pire. C'est ça le populisme pénal.
Alors le grand public vous connaît notamment, comme l'a rappelé Laetitia dans sa présentation, pour la défense des familles d'enfants de djihadistes. Et vous avancez que ne pas rapatrier ses enfants en France et donc les laisser mourir avec leur mère en zone de guerre participe de la fabrication du terrorisme et constitue, donc pour reprendre le titre d'un de vos livres, une victoire de Daesh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de vue ?
Vous savez, moi je vais vous dire, je suis née en Lorraine, j'ai grandi en Lorraine. Et en Lorraine, je peux vous assurer qu'on n'aimait pas trop les Allemands. J'ai encore en tête mon grand-père qui était très fier de moi quand j'arrivais avec 1 ou 2 sur 20 au sortir du collège en allemand. Je me souviens même de ma sœur qui écrivait « interrogatoire de Bosch » au lieu d'interrogatoire d'allemand. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était quand même assez étrange. Notre rapport, nos rapports avec l'Allemagne, malgré les jumelages et l'apaisement qui était censé nous entourer. Je vous raconte ça parce que les Lorrains, voyez-vous, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont adopté des dizaines, près d'une centaine d'enfants qui sortaient des Lebensborn. Les Lebensborn, c'était ces orphelinats créés par les Allemands pour améliorer la race aryenne. Et puis, en 1945, comme on ne savait pas quoi faire de ces gamins, eh bien, ce sont les Lorrains qui en ont adopté beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été capable, nous, d'adopter les enfants de ceux qui avaient tué nos grands-pères, 14-18, nos pères, nos fils, nos frères, et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire revenir 200 enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à naître en Syrie, qui n'ont pas demandé à être emmenés en Syrie, des camps qui sont situés dans une zone de guerre dans lesquels ils sont en train, et je pèse mes mots, de crever. Donc, en fait, les victoires de Daesh, c'est ça. Parce que Daesh, on leur offre sur un plateau cette inhumanité. Daesh gage que nous ne parviendrons pas à lutter contre le terrorisme sans renoncer à l'état de droit. C'est exactement sur cette zone-là qu'ils veulent nous emmener et ils y parviennent. Donc, je suis effectivement affolée par la tournure que prennent les événements et que prend le temps. Voilà plus de deux ans, parfois 3 ans, que ces enfants, dont les 2 tiers ont moins de 6 ans, périssent dans des camps avec une tente et de la boue. C'est tout. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, justement, en ayant peur, non pas de l'opinion publique, mais d'une foule. Et je pense qu'à un moment donné, c'est l'inaction du pouvoir politique qui transforme la foule, l'opinion publique en foule. La difficulté, elle est là. Il faut savoir prendre une belle distance avec l'opinion publique quand elle charrie le pire. François Mitterrand, quand on lui dit, avant le second tour, « Monsieur Mitterrand, plus de 70% des Français sont contre l'abolition de la peine de mort. Est-ce que malgré tout, vous allez l'abolir ?» Il répond « Oui, et je vais devenir président de la République. » Et il avait raison. Il avait raison parce que là, ce qu'on a vu, c'est un chef de l'État qui était capable de prendre une belle distance avec l'opinion publique. Là, par contre, on est en train de s'y vautrer et finalement de créer le pire dans cette opinion publique. Moi, il y a 2 ans et demi, quand je commençais à parler de ce sujet, j'avais 30-40 menaces de mort par jour au cabinet. C'est fini aujourd'hui. C'est terminé. C'est terminé parce que, tiens, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on commence peut-être à évoluer un peu. On commence surtout à se dire, ce sont quand même des enfants. Et puis, tout ça parle de nous, pas d'eux. Tout ça parle de nous et pas d'eux. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est que ces enfants sont sacrifiés.
Un autre de vos récents faits d'armes est la tribune que vous avez signée avec une centaine d'avocates pénalistes de France revendiquant féministes pour rappeler les principes de la présomption d'innocence et de la prescription, parue dans Le Monde et intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infractions sexuelles ». Alors pourquoi avoir écrit ce texte et quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué?
J'ai écrit ce texte parce que je n'en peux plus d'entendre et de lire n'importe quoi sur la justice pénale en matière de crimes sexuels. Lorsqu'une députée, non pardon, une sénatrice, oh, je ne sais plus très bien, une parlementaire, à l'initiative d'une énième proposition de loi, vient affirmer sur le plateau d'une chaîne télévision parlementaire que pour qu'un homme coupable de crimes sexuels soit condamné, il faut prouver que la victime n'est pas consenti à l'acte, c'est scandaleux, c'est lamentable. Et je ne comprends pas comment on considère qu'il est nécessaire de raconter n'importe quoi pour faire entendre une raison qui est en réalité la des raisons pure et simple. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Dans le texte, on ne parle jamais du consentement de la plaignante ou de la partie civile, mais on part toujours, toujours du mise en cause. Et il est faux, encore une fois, d'asséner que pour qu'un coupable soit condamné, il faut prouver que la victime n'est pas consentie à l'acte. Ça n'est pas vrai. Et c'est vrai que quand on est pénaliste, qu'on passe son temps devant les tribunaux correctionnels, qu'on passe son temps devant les cours d'assises, qu'on sait à quel point il est difficile dans ce type de contentieux de faire, non pas respecter la présomption d'innocence, mais de faire passer la présomption d'innocence, eh bien, j'ai énormément de mal à entendre parler de justice patriarcale au service des monstres ou des criminels sexuels. C'est pas vrai. Moi, ce qui manque en France, c'est une vraie connaissance de la justice. Que les profs emmènent dès le collège les élèves, les collégiens, devant les tribunaux, en comparution immédiate. Qu'on continue au lycée et qu'on cesse de parler d'une justice qu'on ne connaît pas, sauf à travers soit les séries américaines, soit les sujets polémiques, mais complètement polémiques, qui sont finalement sous la coupe d'un populisme pénal qui ne fait que grossir. C'est ça que je ressens. Et c'est pour contrebalancer cette fausse perception de l'appareil judiciaire que j'écris ces textes. Je ne suis pas en train de vous dire que l'institution judiciaire n'est pas perfectible. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est parfaite et qu'il n'y a pas de progrès à faire. Mais elle est en train de crever sous des réformes successives qui rendent les textes illisibles. La loi Schiappa, c'est août 2018. En février 2020, on nomme une parlementaire pour faire le bilan de la loi Schiappa. Mais elle n'est pas arrivée devant les tribunaux. On ne la connaît pas, la loi Schiappa. En moins de 18 mois plus une année de Covid, on ne peut pas connaître une réforme de l'ampleur de la loi Schiappa. Elle n'a pas rencontré ses juges. Donc, qu'on attende, qu'on laisse la loi respirer, qu'on laisse les réformes respirer. On est en train de réformer les réformes. Le droit pénal va finir par devenir complètement illisible, vraiment.
Pour continuer un peu dans cette direction, quel regard portez-vous sur les discours féministes qui sont pour certains très hostiles au système pénal et plus généralement au droit en fait, un droit qui serait vu, comme vous l'avez dit, comme la traduction de l'oppression patriarcale. Et là, je pense notamment au cas de Solveig Halloin qui avait accusé Philippe Cobert, qui est votre client, de viol et qui, après le classement sans suite de sa plainte, est maintenant sous le coup d'une procédure pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, faut surtout prêter attention à une chose, ne jamais répéter ce nom et ce prénom, parce que c'est finalement ce qu'elle cherche. Et grâce à cette dénonciation calomnieuse, elle a trouvé une forme de célébrité. Même être discréditée, elle s'en moque. L'important, c'est d'exister. Donc il faut faire attention aussi à ne pas donner d'existence judiciaire à quelqu'un qui cherche de toute façon l'existence et qui trouve la justice pour s'autoriser ou en tout cas pour obliger les uns et les autres à la faire exister. C'est sa réussite à elle. Donc je fais toujours très attention à ne jamais mentionner son prénom et son nom. Maintenant, je ne veux pas réduire le féminisme d'aujourd'hui, le féminisme contemporain, à ses dérives. Évidemment, il n'est pas question pour moi de le réduire à ses dérives. Mais je ne veux pas non plus qu'on parle exclusivement d'un dommage collatéral ou de quelques dommages finalement subsidiaires. Il faut faire attention parce qu'on risque de tout discréditer si on s'enfonce dans cette non pas stratégie, mais dans cette dynamique-là. Pour être très clair, durant une année, il y a une enquête préliminaire contre Philippe Cobert sur des faits qui ont été classés sans suite parce que l'infraction non seulement n'a pas été démontrée, mais n'existe pas. Mon problème, c'est la complicité de certains médias. Mon problème aussi, c'est la médiatisation outrancière d'une plainte. Il faut arrêter de médiatiser une plainte. Une plainte, c'est rien. Une plainte, c'est judiciairement une parole qui doit ensuite être mise à l'épreuve d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire. Mais en soi, une déclaration, ça n'est strictement rien. Parce que sinon, on est même au-delà du respect de la présomption d'innocence. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Je rappelle quand même qu'avant même l'ouverture d'une enquête préliminaire, cette femme a médiatisé la plainte, qui n'était pas encore reçue par le procureur, avec 12 minutes de spot de vidéo sur un média qui s'appelle le Youth Post, où elle explique comment Philippe Cobert est censé l'avoir violée. Mais ce que le Youth Post n'a jamais dit, c'est qu'il y avait 50 minutes de film. Et que dans les minutes qui suivent, elle explique que Philippe Cobert découpe des prostituées, cache les morceaux de prostituées dans sa cave, fait la sortie des écoles, est un procès. Enfin, elle raconte n'importe quoi. Et on a fait un montage. Eh bien, ce montage, moi, je l'ai découvert lorsque Philippe Cobert a été auditionné par les services de police 6 à 8 mois plus tard. Mais médiatiquement, ça, vous le saurez jamais si je vous le dis pas. Et d'ailleurs, j'arrive pas à la faire retirer, moi, cette vidéo, où elle continue à expliquer comment il l'a violée. Parce qu'il y a une petite phrase en dessous qui dit la plainte a été classée sans suite. Ça suffit. Ça s'appelle la liberté d'informer. Moi, je veux bien, hein. Mais tout ceci va participer au discrédit d'un mouvement qui est nécessaire, qui aurait dû être nécessaire, qui peut encore être nécessaire, mais qui peut aussi s'avérer dangereux si on ne prend pas garde à de telles dérives. Et elles existent, vraiment, vraiment.
Alors j'ai une question de néophyte à vous poser. Vous décriviez tout à l'heure la confusion hein, qui existe vis-à-vis de cette notion de consentement dans le droit pénal. Puisqu'on définit le viol par une pénétration sexuelle qui est exercée avec violence, contrainte, menace ou surprise, hein, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il serait possible d'imaginer un tel cas alors que la personne ciblée aurait consenti ? Et est-ce qu'on peut caractériser un viol quand une personne a consenti à un acte de ce type ?
Mais en fait, on ne raisonne jamais comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que la menace ou la surprise, avec la loi Schiappa notamment, elle a élargi finalement la définition de la menace ou la surprise en prenant en considération des éléments qui étaient déjà dans la jurisprudence, mais tout de même, la menace ou la surprise, lorsqu'il s'agit de mineurs notamment, ça peut être constitué simplement par l'autorité de fait ou de droit, c'est-à-dire l'instituteur ou l'oncle, la tante ou le père. D'accord ? Ça peut être constitué par la différence d'âge. Ça peut être constitué par un âge si petit, entre guillemets, de la victime, qu'il y a un abus de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si l'adolescent ou l'enfant ne réagit pas et que le mis en cause va dire « Voyez, elle avait consenti, elle ne disait rien, elle ne disait pas non, elle avait l'air contente, ça ne fonctionne pas. » Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la contrainte où la surprise est caractérisée par la différence d'âge. Il n'y a pas besoin d'une manifestation de non-consentement. Vous comprenez ? Et ça, c'est important. Ça a été un grand progrès. On ne peut plus se défendre en disant « Mais elle avait l'air contente. » Parce que vous voyez, elle souriait, elle ne bougeait pas. C'est fini, c'est terminé. Donc, tout ça, il faut l'expliquer. Parce que sinon, ça n'est plus audible. Il faut connaître les textes et puis il faut connaître la façon dont les textes sont mis à l'épreuve par les magistrats. Bon, ben ça, c'est depuis août 2018. Et on est déjà en train de réformer avec un risque d'inconstitutionnalité. Moi, j'étais assez sidérée, je vais vous dire une chose. J'écoutais Pascal Robert-Diard raconter son dernier bouquin consacré à cette professeure qui s'est suicidée dans les années 80, Gabrielle, après avoir vécu une histoire d'amour très forte avec son élève qui avait 16 ans. Bon. Et elle était interrogée sur France Inter par Léa Salamé sur ce nouveau livre, et elle raconte donc cette histoire avec cette histoire qui a conduit cette femme en prison, qui a conduit à sa condamnation, et puis qui a finalement conduit cette femme à mettre fin à ses jours parce qu'elle a compris qu'elle n'arriverait pas à vivre cette histoire d'amour jusqu'au bout, et ce jeune homme qui l'a aimée ou qui continue de l'aimer, en tout cas qui ne pardonnerait jamais à ses parents. Bref. Léa Salamé expliquait qu'elle avait beaucoup pleuré en lisant le livre. Bon. Il avait 16 ans. Et elle en avait une trentaine d'années. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 15 ans, une trentaine d'années, c'est un viol. Avec la proposition de loi qui vient d'être votée. C'est comme ça. Il n'y aura pas d'exception. C'est nécessairement un viol. Donc c'est étrange, cette société qui, d'un côté, trouve merveilleux le livre de Pascal Robert-Diard, Léa Salamé qui dit « Je vous remercie pas parce que vraiment vous m'avez fait pleurer » et à juste titre parce que c'est sûrement un merveilleux livre et quand tout soit, c'est une histoire d'amour dramatique, mais cette société qui en même temps exige que tout rapport sexuel entre quelqu'un qui a 15 ans et un majeur est un viol. Ah oui, mais je suis désolée, mais là encore, le risque d'inconstitutionnalité, il est là. On doit toujours, malgré tout, rapporter la preuve contraire, parce que sinon, autant juger tout le monde au commissariat, autant arrêter les magistrats, ça sert à rien. Si c'est automatique, il n'y a plus d'éléments intentionnels. Si de toute façon c'est comme ça et pas autrement, on n'est plus dans le judiciaire, là, en fait. On est dans autre chose. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait réfléchir. Mais en plus, on a raconté n'importe quoi. Toutes ces propositions de loi sont motivées sur quoi ? Sur, encore une fois, la médiatisation outrancière de l'affaire Kouchner-Olivier Dehaven et Vanessa Springora. Et donc, toutes les propositions de loi, lorsque vous lisez l'avant-propos hein, qui explique ce qui a motivé les parlementaires à vouloir changer la voie commence soit par Springora, soit par Kouchner. Enfin, aujourd'hui, à l'aune du droit existant, à l'aune de ce qui existe actuellement, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire que Victor Kouchner et Vanessa Springora pourraient déposer plainte puisqu'elles ont moins de 48 ans, ils ont tous les deux moins de 48 ans, et il n'y aurait pas de difficulté à établir la contrainte ou la menace. Pardon, la contrainte ou la surprise, aucune difficulté. Mais aucune, parce qu'il y avait une vraie différence d'âge entre Vanessa Springora et l'auteur des violences sexuelles, et parce qu'il y a une autorité de droit et de fait, mais surtout de droit d'ailleurs, d'Olivier Duhamel sur son beau-fils. Donc, on est en train de réformer la loi sous prétexte que ce qui paraît dans ces deux livres est scandaleux, alors même que en fait la loi existante, elle a déjà corrigé le tir et elle a déjà réformé ce qui apparaît comme scandaleux. Alors moi, ce qui me scandalise, c'est en réalité ce populisme pénal-là.
Sur les choses qu'on entend en ce moment, il y a des gens qui voudraient que les crimes sexuels soient imprescriptibles. Et je vous ai entendu avoir cet argument très intéressant qui était, je résume, que c'est l'absence de prescription des faits qui va aider à respecter la présomption d'innocence. Est-ce que vous pouvez développer ce point ?
Évidemment qu'en allongeant encore les délais de prescription, et encore une fois, on n'a pas encore éprouvé l'allongement du délai de prescription à 30 ans sur les crimes sexuels commis sur mineurs, hein, parce que ça, c'est la réforme Schiappa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a été violé à 5 ans, on peut déposer plainte 43 ans plus tard, d'accord, à 48 ans. Donc celui qui a 30 ou 40 ans, eh bien, il va être mis en cause, mis en examen ou prévenu, accusé à 75-80 ans. Bon. Premier argument, la difficulté, c'est qu'on n'aura aucun élément de preuve. On n'y arrivera pas. On ne peut pas prouver 30 ans, 35 ans, 40 ans plus tard, une relation sexuelle forcée. C'est quand même extrêmement compliqué. Il n'y a plus possibilité d'avoir une preuve, évidemment, génétique. Les témoins ont forcément disparu ou leur témoignage ne sera pas très précis. Et nécessairement, on va se voir multiplier les décisions de classement sans suite, les relax, les acquittements, puis on expliquera que la justice n'est pas patriarcale. Mais c'est aussi difficile. Ça s'appelle le dépérissement de la preuve. Le dépérissement de la preuve et de la force probante des éléments qu'on rapporte pour prouver une culpabilité. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, je n'en peux plus d'entendre que la prescription est un instrument d'impunité. La prescription, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour toute la société. C'est aussi, à un moment donné, savoir qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus poursuivre, d'abord parce qu'il n'y a plus de preuves, et puis parce qu'il faut tourner une page. C'est empêcher l'homme mortel d'avoir une haine immortelle. Je vais vous dire une chose, c'est aussi ce qui finalement finira par caractériser la justice face à la vengeance. Et puis c'est aussi, et ça c'est important, parce que moi je reçois des femmes dans mon cabinet qui sont victimes, qui ont été victimes et qui ont besoin de la prescription. Il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, ont besoin de savoir que c'est maintenant ou que c'est plus le temps de déposer plainte. Passer toute sa vie à se dire « Est-ce que je vais déposer plainte ? Est-ce que je vais déposer plainte ? Est-ce que je vais judiciariser ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je dépose plainte contre mon père ?» Passer toute sa vie à ça, mais c'est une torture. Et pour certaines, c'est important de se dire « D'accord, j'ai jusqu'à telle date pour le faire. Et si je ne le fais pas, eh bien, je tournerai la page de la judiciarisation de ce qui m'est arrivé. » Il y a aussi beaucoup de femmes qui attendent la prescription pour parler. Je peux vous le dire, j'en connais. Et qui sont venues à mon cabinet pour demander quand c'était prescrit. Parce que justement, elles ne veulent jamais que cette parole se retrouve un jour devant la justice. Et qu'elles veulent que la justice ne puisse pas passer et qu'elles ont besoin que la justice ne passe pas pour libérer leur parole. Il n'y a pas qu'un type de victime. Il y a plein de femmes. Il y a plein de situations familiales différentes. Donc il ne faut pas non plus enfermer les victimes de ces crimes ou de ces violences sexuelles dans un prototype. Voilà. Ce n'est pas parce que certaines victimes ont pris la parole qu'elles les représentent toutes. Donc c'est tout ça. Dans toutes les sociétés démocratiques modernes, la prescription existe. C'est d'abord la prescription, une arme contre l'arbitraire. Et c'est quand même ce qui fonde nos sociétés, en tout cas en matière pénale, ce qui fonde l'état de droit.
Alors pour passer à un autre sujet... Quelles ont été et quelles sont les conséquences de la crise sanitaire que nous vivons actuellement sur le fonctionnement de la justice ?
Alors, le premier confinement, ce qu'on appelle le premier confinement, a été catastrophique. D'abord parce qu'il n'y avait plus du tout d'audience, sauf dans le contentieux des détentions provisoires. Et encore, hein, ils ont été jusqu'à supprimer le recours à un juge des libertés, les détentions, dans le cas de la prolongation des détentions provisoires. La justice a fonctionné au ralenti pendant des mois. Elle avait énormément souffert juste avant de la grève des avocats qui a perduré quand même 2-3 mois. Donc les retards successifs font que je pense qu'on mettra des années à s'en remettre encore. Il y a des délais d'audiencement qui sont très très longs aujourd'hui. Et voilà, la justice était déjà, l'institution judiciaire était déjà très malmenée, mais il est vrai que la crise sanitaire l'a achevée, et puis je pense surtout aux détenus. Moi, j'ai ces images-là, mais on n'en parle jamais, en fait. D'abord, il y a eu la panique de ces détenus qui, au départ, et on l'a tous pensé, se disaient « mais si le Covid rentre en détention, on va tous mourir ». Parce que justement l'enfermement, parce que justement un confinement, mais une macération dans un tel virus a fait peur à tout le monde. Et puis aujourd'hui, il y a la terrible adaptation aux règles sanitaires. N'oublions jamais les femmes détenues et leurs enfants. C'est-à-dire ces enfants qui, pendant des mois, n'ont pas pu voir leur mère en prison. Ça a été extrêmement dur pour les mères et pour les enfants. Parce que tous les parloirs famille étaient supprimés. Et puis, quand enfin les parloirs famille ont été rétablis, c'est avec une vitre, une glace. Ils ne peuvent pas se toucher. Ils ne peuvent pas s'embrasser. Alors, ils inventent des jeux avec le plexiglas, celui qui attrape la main par-dessus la vitre le plus vite possible. Mais c'est vraiment dur, dur. Les fratries ne peuvent pas rentrer dans les parloirs en même temps. Il faut que ce soit enfant par enfant, et notamment à Fresnes, pour respecter les règles sanitaires. Donc, n'oublions pas non plus, les psychologues, en tout cas dans le cadre du premier confinement, ne venaient pas en détention. Donc, tout le monde était traumatisé par ce qui se passait, et les détenus ne pouvaient pas parler, les familles ne pouvaient pas rentrer. Il y a même eu des problèmes de linge, parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer le linge. Voilà, on oublie toujours les prisons, mais c'est vraiment le réceptacle du pire dans ces situations-là.
Alors, dans votre récente interview au Point, qui a été menée notamment par Laetitia, vous avez dit que notre pays était malade de ne pas connaître le droit. Donc, quels sont à vos yeux les symptômes les plus graves et comment est-ce qu'on pourrait y remédier ?
Mais je pense que c'est aussi parce qu'on se sert du droit comme d'une arme électorale, enfin, pas du droit, pardon, mais du fait divers, de la matière pénale comme d'une arme électorale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc comment y remédier ? Par l'éducation. Vous voyez, moi là j'ai une petite stagiaire de 3e qui est arrivée aujourd'hui au cabinet. Bon ben voilà, elle est au tribunal là. Et d'abord le matin, je lui dessine le tribunal, je lui explique ce que c'est qu'un procureur, un juge et puis un prévenu. Et puis toute l'après-midi, elle va au tribunal avec un tableau. Il est accusé de quoi ? Quelle est sa défense ? Combien demande le procureur ? Combien il a pris ? Rien que ça, je peux vous assurer que tous les stagiaires de 3e qui ont fait un stage dans mon cabinet ne diront pas dans quelques années que la justice est laxiste en France, hein, et que véritablement la présomption d'innocence fait en sorte que tout le monde reste impuni et surtout les plus violents. Je peux vous assurer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les citoyens rencontrent la matière judiciaire. Parce qu'on a, une fausse image, mais qui est véhiculée, hein, aussi parfois, souvent, par une classe politique qui s'en sert d'un point de vue électoraliste. Et c'est ça que je trouve assez terrifiant. Vraiment, en plus, c'est compliqué, cette matière. C'est compliqué. Moi, je n'aime pas l'instrumentalisation qui est faite aussi par certains confrères, je vous le dis franchement, et notamment par rapport aux plaignants. Il y a des confrères qui poussent à la plainte. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Moi, quand une femme m'explique qu'elle a été victime durant des années de son père, de son frère ou d'un voisin, et qu'elle me dit « je veux déposer plainte », il faut déjà lui expliquer ce que c'est qu'une plainte. La procédure pénale, elle broie. Et elle broie pas seulement qui est mis en cause, accusé, elle broie aussi celui qui la porte, ou en tout cas celui qui dépose plainte, parce que c'est long, parce que c'est dur, parce que le père va nier, parce que la famille va exploser, parce qu'il va falloir aller jusqu'au tribunal, et que ça va prendre 18 mois, 2 ans. J'ai connu des victimes, alors même que le mis en cause devenu accusé a été finalement condamné et lourdement, qui se sont sortis plus fragilisés par la procédure pénale et par la procédure qui s'est finalement bien soldée pour elle qu'autre chose. Mais parce que c'est long et c'est difficile. Et puis surtout parce que elle pense, et ça on a tort de le dire, que sans judiciarisation, il n'y a pas de deuil. C'est pas vrai. C'est pas vrai, le deuil ne passe pas nécessairement par un procès. Il y a plein d'autres façons de faire son deuil. Et moi, je reste persuadée que la seule façon de faire son deuil, si tant est que cette expression ait du sens, c'est dans l'entre-soi qu'on se répare. C'est de soi à soi qu'on se répare. C'est pas avec la justice. D'abord, la justice n'est pas là pour ça. Et très souvent, malgré elle, elle ne répare pas, elle fait tout le contraire.
Alors, ce qui peut sembler un peu paradoxal, néanmoins, c'est que les Français ont l'air de se passionner pour les histoires policières ou judiciaires. Je dis ça parce que les séries qui portent sur ces sujets marchent très bien. Et je pense notamment à une série que Peggy et moi, on aime beaucoup, qui s'appelle Engrenage, que vous connaissez certainement. Alors, justement, je voulais vous demander ce que vous pensiez de cet apparent paradoxe et puis peut-être aussi ce que vous pensez de cette série.
Oui, alors en fait, comme j'aime pas les heures sup et que j'adore le théâtre, le cinéma et la littérature, mais surtout pas dans ces matières-là parce que j'en peux plus, je ne regarde pas Engrenage.
Non, mais ça m'étonne pas, c'est comme les musiciens qui ne vont pas au concert parce que c'est leur métier.
Oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui a trait à la justice, pour moi, c'est un peu compliqué de. Vous savez, c'est pareil, il y a une série là sur tout ce qui est justice antiterroriste, j'ai vraiment le sentiment de. De faire des heures supplémentaires, quoi.
Bien sûr.
Quand on a un quotidien comme le nôtre, on a envie d'en sortir et que je ne suis pas très fan de. Mais par contre, ce qui m'intéresse toujours, enfin, ce qui m'intéresse, ce qui me surprend et ce qui me désole aussi, c'est que, allez, on va dire deux fois sur trois, trois fois sur quatre, les prévenus dans le box appellent le président votre honneur. Hein, ça, c'est sûr. Ou quand le policier arrive chez eux, est-ce que vous avez un mandat ? Donc, il y a vraiment un marquage sur les séries américaines.
Hein. Mais pas dans cette série. Dans Engrenage, justement, ça, je crois que ça a été fait avec des conseillers techniques, des consultants qui venaient du métier.
Non, mais je ne peux rien vous en dire, je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout.
Pour finir, j'ai beaucoup aimé dans votre portrait du Monde Magazine, qui a énormément de défauts, mais ce passage je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, tout simplement, je me suis identifiée. Vous dites que vous êtes une concertiste contrariée et vous précisez que vous avez choisi de faire carrière dans le droit parce qu'il y a le contraire de la musique. Que vouliez-vous dire par là ?
Non, mais c'est juste que je ne me destinais pas du tout au droit puisque j'ai passé un bac philo-musique à l'époque, que j'ai arrêté les études après mon bac pour rentrer au conservatoire, que je donnais déjà des cours et que la voie était toute tracée pour une carrière musicale. Et puis que la maladie, on a décidé autrement, et que comme il n'était pas question pour moi d'être prof de musique en collège, et que j'ai toujours eu du mal avec les demi-mesures, j'ai choisi le contraire de la musique. Et dans mon imaginaire, j'en avais très peu à l'époque, sauf musical et artistique, c'était médecine ou droit, donc j'ai pris droit. Voilà. Mais vraiment, je suis allée en droit pour ça. Et puis, je me suis dit aussi qu'avec le droit, il y aurait une hygiène de travail qui ressemble à celle du conservatoire. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est 5, 6, 7 heures par jour, toute son adolescence devant son clavier, on se dit qu'à la fac de droit, on doit apprendre aussi par cœur ce qui peut parfois ressembler à l'exercice un peu rébarbatif de l'apprentissage des gammes. Mais bon, voilà. Donc, je suis rentrée à la fac de droit, pas forcément convaincue, mais de toute façon résignée. Et puis, j'étais à Nancy à l'époque et je suis rentrée au hasard un jour dans un tribunal qui était Place Stanislas à ce moment-là. Et moi qui ne pouvais plus écouter de musique classique, eh bien, j'ai écouté quelqu'un plaider pour la première fois, un petit bonhomme merveilleux qui faisait tomber toutes ses affaires les unes après les autres, qui n'était autre qu'Henri Leclerc, mais je ne le savais pas, est venu plaider à Nancy une affaire assez spéciale. Et je me suis dit, en fait, c'est ça aussi un concertiste. Et donc, je me suis dit que, que j'allais devenir avocat pénaliste. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose pour certains confrères de musical lorsqu'ils plaident. Mais les plaidoiries ont changé et ça c'est bien aussi. Les femmes n'ont pas pris le pouvoir, j'ai horreur de ça. Mais la profession s'est féminisée. Même si chez les avocats pénalistes, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais qu'on est les collaboratrices des grands hommes. Hein, ça, c'est vraiment le cas et c'est dommage, mais ça va évoluer, c'est déjà en train d'évoluer. Mais en tout cas, la plaidoirie change. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était très grandiloquent, c'était très, très masculin, ça vibrait dans tous les sens, il y avait des effets de manche. Et puis, comme la profession se féminise, il y a quelque chose d'abord de plus psychologique, de plus, je trouve, hein, de plus fin, de moins assuré et en même temps de beaucoup plus précis. Et voilà, tout ça, je l'entends un peu comme une musique. Oui, véritablement. Ouais. Je choisis parfois les compositeurs quand j'entends mes consoeurs ou mes confrères plaider. En tout cas, j'ai sous les yeux des partitions musicales. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Mais voilà, c'est une erreur de parcours qui m'a donné la chance d'exercer, à mon humble avis, le plus beau métier du monde.
La musique a certainement perdu une concertiste talentueuse, mais le droit a gagné une grande avocate. En tout cas, merci beaucoup Marie Dosé d'avoir rejoint Les Contrariantes aujourd'hui.
Merci à vous.
Et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Merci.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.
Gémeaux présente son déstockage de printemps. Ça, c'est vous quand vous apprenez qu'il y a des réductions jusqu'à moins 70% chez Gémeaux. Ouhou ! Et ça, c'est vous quand vous apprenez que toute la famille peut en profiter. Youhou ! Jusqu'au 6 avril, Gémeaux fait son déstockage de printemps avec des réductions jusqu'à moins 70%. Remise immédiate sur articles signalés, voire conditions en magasin et sur gémeaux.fr.